On est avec Emmanuel Pirer en direct par téléphone pour parler de Féerie Générale que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies. C'est aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup Emmanuel Pirer d'être avec nous en direct par téléphone.
Oui, merci à vous.
Ma première question, Emmanuel, c'est la signification du titre qui s'appelle Féerie Générale, mais Féerie Générale au singulier.
Oui, c'est une féerie. Oui, ça aurait pu être plusieurs féeries, je ne sais pas. Le titre, pour une fois, est venu vraiment très vite. Et j'avais l'idée par rapport au livre précédent qui était un peu plus, qui était un peu ironique, qui n'aimait pas beaucoup le monde, qui s'appelait Comment faire disparaître la Terre. J'avais l'idée de faire un livre où je ne parlerai que de choses que j'aime. Voilà. C'était l'idée de départ. C'était ça, la féerie. Donc des petits, il fallait donc découper soigneusement des petits îlots de choses qui me plaisaient. Mais rapidement, toutes ces d'autres choses sont arrivées dans le livre, et donc ensuite, ça, j'ai mis un certain temps à écrire le livre pour retrouver le niveau de féerie que je souhaitais avec beaucoup d'autres réalités que celles que je souhaitais au départ.
Ce livre est composé de différentes parties qui posent tous une question,
Oui.
comme comment planter sa fourchette, comment faire le lit de l'homme non schizoïde et non aliéné. On a choisi donc de parler de comment habiter le paramilitaire, qui est la deuxième partie. Comment habiter le paramilitaire? J'en ai lu quelques extraits à nos éditeurs. Parce que en étudiant cette partie, on va pouvoir comprendre, l'auditeur va pouvoir comprendre comment se construit tous ces liens fictionnels, parce que dans Féerie Générale, le lecteur a affaire à un dispositif. Tout de suite, le dispositif va nous sauter aux yeux. Ce dispositif, c'est une mise en lien, des mises en lien,
C'est
parce
ça,
que
oui. C'est ça qui n'est pas féerique. La féerie devait être un ensemble d'îlots, et dès qu'on tombe sur le paramilitaire, c'est déjà beaucoup moins féerique, et tout ça se met en lien, et c'est ça que je ne trouve pas féerique, justement, parce que dans le monde mondialisé dans lequel on est, tout est en lien. C'est à ça que je voulais échapper, et c'est ça qui est revenu, et avec quoi j'ai dû me débattre, et puis travailler, quoi, qui est la réalité de notre monde.
Mais en même temps, c'est voulu.
Oui, ben, alors il y a le lien qui n'est pas voulu, qui est le lien subi, et puis ensuite dans la littérature, j'ai répondu par une autre manière de faire les liens, en fait, par d'autres liens qui me conviennent mieux. Ouais.
Mais à la base, pour écrire tes textes, Emmanuel, tu les places dans une grille de dispositifs pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand tu construis ta documentation, tu as déjà le dispositif en tête.
Pas vraiment. Ça se fait en aller-retour, en quelque sorte. Là, j'ai mis vraiment longtemps pour écrire. J'ai mis à peu près 5 ans, ce qui me semble assez long. Il y a des années, certaines années, je lisais beaucoup de documents. Je crois que j'ai commencé par lire des documents. L'année suivante, j'ai pris des petites scènes dans la rue, ici et là, dehors. Je regardais, je notais des petites choses. Voilà, donc, et ensuite, les choses, ces petites choses que j'avais notées ont pu se mettre en lien avec les choses que j'avais lues auparavant. Et puis, il y a l'anecdote, par exemple, dans Comment habiter le paramilitaire. L'anecdote, c'est que je vis dans un lieu qui est un ancien, qui est les anciens locaux de la Brinks, convoyeur de fonds. Voilà. Et que plusieurs, donc un des locaux qui sont assez paramilitaires, en fait, qui était au départ plein de grilles, plein de métal, voilà, qu'on a dû enlever quand on est arrivé dans ces lieux. Parce que c'était des lieux qui étaient dédiés à l'argent, en fait. Donc ils étaient plein de protections pour que l'argent ne soit pas volé. Donc nous, en tant qu'êtres humains, on a dû enlever pas mal de ces grilles pour se sentir mieux. Et puis il se trouve qu'une autre fois, j'ai habité dans une caserne militaire à Cergy-Pontoise, qui était une caserne pour artistes. Et qu'encore une autre fois, habitant ici à Lyon, dans mes locaux de convoyeur de fonds, je vais à un colloque littéraire aux subsistances. Donc les subsistances militaires, en fait. C'est là que se trouve l'école des Beaux-Arts à Lyon, et puis qu'on lit aussi un certain nombre de manifestations artistiques. Et donc j'ai commencé à trouver ça assez étrange qu'en tant qu'artiste, je me retrouve sans arrêt à habiter dans des casernes et dans des lieux blindés. Voilà, donc ça c'est l'anecdote qui a fait que j'ai réfléchi à la question, qui était simplement des choses vécues, quoi. Donc tout ça, après, le dispositif n'est pas là du tout au départ, en fait. À force de travail, il se met en place et il commence à apparaître, mais presque il apparaît vers la fin. Et ensuite, il y a vraiment un dispositif qui fait que pratiquement, je pourrais dessiner un schéma de chacun des chapitres Ensuite, il y a le schéma du livre qui est constitué de tous les chapitres, mais pour chacun des chapitres, je pourrais faire un dessin. En fait, j'ai même failli le faire et mettre le dessin de chacun des chapitres dans à la fin ou au début de chaque chapitre. Je trouve que ça fait des jolis dessins. Stern a fait un peu ça à un moment dans son... dans sa vie et opinion de Tristram Shandy, à la fin, il donne des petits schémas de ses chapitres.
Et donc, ça serait un schéma où j'imagine qu'il y aurait plein de traits avec tous les liens, souvent des liens fictionnels, que tu tisses entre eux. C'est toute cette documentation faite de ta curiosité et d'une curiosité qui est non hiérarchisée. C'est-à-dire que dans ta curiosité, elle est quasiment universelle. Tu t'intéresses à beaucoup de disciplines, du savoir, et tu n'y hiérarchises pas.
Oui. Bah, je me dis que... Oui, à un moment, la littérature a à voir avec le langage, avec la langue. Pendant un certain temps, elle s'est occupée de travailler sur la langue des auteurs qui l'avaient précédée. Et maintenant, il me semble que la littérature doit s'occuper d'essayer de redonner un sens, une cohérence à un ensemble de discours qui nous arrivent de toutes parts et qui sont des discours, des conseils, des discours politiques, des discours médicaux, et puis qui sont aussi le savoir universitaire, etc. Donc, moi, je suis assez sensible au langage, à la texture du langage, toutes ces différences au blog, à la manière dont on parle sur Internet, en texto, enfin, toutes ces manières de parler différentes. Et par ailleurs, donc la texture du langage déjà m'intéresse, et puis le contenu de savoir aussi. Et j'ai l'impression qu'à l'université, peu à peu, on s'est concentré de plus en plus sur des choses spécialisées dans chacune des disciplines, et on a du mal à avoir quelque chose qui relie les disciplines. Et alors que dans la vie courante, on est sans arrêt en relation avec des choses très très diverses, quoi, avec la médecine, le jardinage, l'informatique, on est sans arrêt en train de passer d'une discipline à une autre. Et du coup, en littérature, ça m'intéresse plus en effet de faire fi des frontières et puis de relier tout ça, quoi, de créer mon propre discours reliant tous ces discours différents.
Et d'utiliser pour cela, une grande liberté. C'est que tu t'autorises une grande liberté, notamment en faisant des raccourcis. Alors, si on prend cette partie, comment habiter le paramilitaire, ça commence où c'est toi qui parles. Un jour où j'habitais dans les ex-bâtiments d'un convoyeur de fonds, je me rendis à un colloque de littérature qui avait lieu dans un ex-bâtiment de l'armée. Donc, anecdote sur ta vie. Et là, hop, petite partie, nous les Européens, nous ne supportons plus la guerre.
Oui, c'est ça.
Et ensuite, ça ne se termine pas là, parce que après, tu évoques dans Ville générique, la lenteur de la nouveauté urbanistique dans les villes européennes, comparée par exemple aux villes asiatiques, et tu as une toute petite sous-partie qui s'appelle Résultat. Et dans Résultat, tu dis nous autres Européens, d'un côté, nous sommes des personnes très douces qui ne brutalisent pas leur ville et transforment avec douceur leur habitat. Et d'un autre côté, nous les Européens sommes aussi des personnes très douces qui prônent le soft power, repoussent les conflits armés, abolissent le service militaire et vident les bâtiments militaires. Résultat, nous habitons dans des casernes. C'est une grande liberté pour pouvoir dire ça.
Oui, c'est simplement les fils qui sont tirés, en fait. Il y a l'anecdote, qui est cette anecdote donc, d'habiter dans des locaux militaires ou paramilitaires et puis d'aller à un colloque de littérature dans un bâtiment militaire aussi, qui est quand même une chose assez étrange, je trouve, dans une expérience artistique d'amateur de littérature. On ne pense pas tout de suite que c'est relié à des bâtiments militaires, toutes ces activités-là. Et donc ça, c'est simplement l'anecdote. Et puis ensuite, au fil des années, je tire les fils qui sont liés. Donc par exemple, je me dis, il y a quelque chose, c'est pas simplement un hasard, quoi. C'est pas une coïncidence, il y a quand même quelque chose qui est lié à l'urbanisme des villes. Donc je me dis, comment se fait-il que nous nous retrouvons, nous les artistes, à habiter dans des anciennes usines, dans des anciennes malteries, enfin tous les collectifs d'artistes connaissent ça et tous les spectateurs aussi. Sans arrêt, on se retrouve à habiter comme ça en banlieue, dans les banlieues des villes et dans des bâtiments qui étaient avant industriels ou de l'armée. Donc je me rappelle tout d'un coup d'un texte de Rem Koolhaas qui parle de la ville générique. Donc dans un gros livre qui s'appelle Mutation, donc Rem Koolhaas réfléchit à l'urbanisme, à l'architecture et il compare les villes les unes avec les autres. Et donc il explique dans ce texte sur la ville générique que les villes européennes sont très douces et essaient de garder leur passé et le transforment très très lentement, très doucement, en réfléchissant bien au permis de construire, au patrimoine, etc. Tandis qu'en Asie, on a vraiment tendance très vite à défaire un quartier, à le raser, puis à refaire de quelque chose de complètement différent. Donc ce passage sur les villes européennes arrive assez logiquement pour ça. Et puis après, je réfléchis au fait que les casernes sont vides. Et les casernes sont vides, pourquoi ? Parce que simplement, on n'a plus voulu d'armée. Donc en 1997, on a abrogé le service militaire en France. Et puis c'est un cas assez courant en Europe. Et donc je me mets à lire là aussi des choses sur le service militaire, sur les raisons pour lesquelles on l'a supprimé, sur la géopolitique et sur la diplomatie européenne. Voilà, je tombe sur ces idées de soft power qui sont à la fois des idées sincères certainement, puis à la fois un petit peu aussi perverses et pas complètement sincères. Voilà, donc j'essaie de rendre ça dans ce passage là que je crois que tu as lu.
Tout à fait.
À l'antenne, qui parle du fait que nous, les Européens, maintenant, nous sommes gentils avec les autres peuples. Voilà, nous voulons un pouvoir soft et puis un cosmopolitisme et que chacun ait un pouvoir partagé, surtout.
Et là, après, tu décales ça, et au détour d'un rêve que tu appelles « mon rêve américain », en fait, tu rêves au roman « Les palmiers sauvages » de William Faulkner, et hop, tu tisses un lien fictionnel avec une artiste que tu crées qui s'appelle Aurélie Ja. Une artiste,
je l'appelle, une lituanienne.
Voilà, qui est vidéaste et qui s'empare de vidéos du commissaire Moulin.
Oui. Alors, Aurélia, oui, c'est une artiste donc qui vit dans la caserne. Cette caserne-là, c'est en gros la caserne de Sergi Pontoise que j'avais connue en 2001 par là, un peu avant qu'elle ferme. Mais après, je pense qu'elle a servi de centre de rétention. Enfin, il en était question. En tout cas, quand elle a fermé pour les artistes, il était question qu'elle devienne un centre de rétention. Donc Aurélia, oui, je m'en sers comme personnage parce que je me dis qu'est-ce que c'est qu'un esprit qui serait complètement adapté à cet imaginaire paramilitaire ? C'est-à-dire qu'on vit dans des casernes, bon d'accord, il y a un moment où c'est pas très grave, on aime bien vivre dans des très grands locaux qui sont pas vraiment des maisons, ça nous plaît, c'est un côté assez fun, etc. Et puis, si on réfléchit que, par exemple, aussi les technologies qu'on utilise, l'Internet, les téléphones, etc., sont aussi des technologies d'origine militaire, il y a un moment où ça fait tellement de substances militaires dans nos existences que je me dis que peut-être ça a une influence sur nos manières de penser, nos manières de sentir, d'aimer, etc. Donc, je me dis, surtout pour une femme, une fille, c'est assez étrange de vivre comme ça dans une ambiance aussi militaire. Et donc, j'ai choisi ce personnage en me disant, je prends un personnage de jeune fille assez adorable, d'une vingtaine d'années, qui arrive de sa Lituanie, qui est toute blonde, etc. Et je me dis, elle va être complètement adaptée. Elle, l'environnement paramilitaire, qui peut être un peu stressant, un peu difficile à vivre pour les autres, est pour elle un environnement parfait, quoi. C'est tout à fait ce qui lui convient et qui la stimule artistiquement. Voilà. Et donc, je me suis souvenue d'une jeune femme qui faisait des vidéos dans cet univers de la caserne et des vidéos très, très paramilitaires, très étranges, très masculines et brutales, où on voyait beaucoup de, pour ce dont je me souviens, d'hommes cagoulés qui sautaient dans les. Qui se servaient de structures métalliques d'un grand bâtiment, un hangar industriel, et qui bondissaient comme ça de structure en structure. Et ça m'a rappelé les fins de téléfilms français qu'on voyait dans ces années-là à la télé, qu'on voit peut-être encore, je sais pas, je regarde moins la télé, où à la fin, quand la police commence à retrouver le bandit qu'elle recherche, celui-ci s'échappe dans le bâtiment. L'arrestation a lieu dans un bâtiment comme ça industriel en bord de Seine, et puis le bandit s'échappe et puis se met à grimper dans les structures, dans la charpente du bâtiment industriel. Moi, j'avais ces scènes en tête, et ça, je trouvais que ces vidéos à cette jeune fille ressemblaient beaucoup à ça. Oui. Voilà, et il se trouvait que à la caserne, justement, la vraie caserne de Sergi Pontoise, justement, des scènes du commissaire Moulin étaient tournées.
Et là, en une phrase, pouf, tu fais retourner complètement ta fiction vers un autre lien. Je lis cette phrase qui est superbe et troublante en même temps. En résumé, expliquait Aurélie Ja à ses amis artistes de la caserne, elle faisait subir à commissaire Moulin le même traitement que le disco avait appliqué à James Brown, inventant avec l'œuvre du crooner un nouveau rapport musical. Et paf, tu pars sur James Brown et tout ça, ça tient.
C'est encore une autre idée.
Mais c'est qu'une accumulation d'idées, c'est ça qui est génial.
Pardon ?
C'est une accumulation d'idées que tu fais tenir par ces liens, c'est fabuleux. Alors James Brown, là, qui arrive.
Comment est-ce qu'il arrive là ? Alors, il arrive là parce que, je me disais, me suis dit, avec cette Aurélia qui a son, qui fait ses vidéos extrêmement masculines et brutales, et qui, donc elle, en fait, c'est comme si elle prenait un film de Commissaire Moulin, mais qu'au lieu de raconter toute l'histoire, qui est quand même le plus intéressant de l'histoire, elle ne prend que la toute fin, qui est la chose où la fin, toute fin de cette histoire, on a envie d'aller dormir, on n'a plus envie de regarder ce film, on a compris comment ça va finir, et on a cette scène à la fin des épisodes de Commissaire Moulin, voilà, qui était un peu récurrente quand même. Et Aurélia, elle prend simplement cette scène-là et tout ce qui est intéressant, elle l'enlève, elle ne garde que ça, elle le répète et répète et répète dans ses vidéos contemporaines expérimentales, quoi. Alors, on fait un spectacle un peu obsessionnel et pas spécialement palpitant. Et oui, ça m'a amusée parce que ça m'a fait repenser à quelque chose que j'avais lu qui m'avait beaucoup plu sur James Brown et le disco. Donc James Brown fait ses chansons qui plaisent beaucoup avec un groove pas possible, etc. Et donc j'ai lu dans un livre de Bastien Gallet, un livre qui s'appelle Le boucher du prince Wenwei, qui est un livre sur les musiques, une enquête sur les musiques électroniques, un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé, de philosophie de la musique. Il explique que le moment où arrive le disco, le disco choisit de prendre des samples en fait de chansons de James Brown et de faire tourner en boucle la fin de la chanson, quoi, quelque chose qui n'a plus du tout de groove, qui est simplement une sorte de boucle à la fin comme ça pour finir, mais qui n'est pas du tout l'intérêt de la chanson de James Brown, et de ne garder que cette chose inintéressante et de la mettre en boucle et d'en faire la substance même de sa musique, quoi. Donc cette chose m'avait beaucoup intéressée. Donc James Brown était complètement catastrophé par cette nouvelle musique qui le niait et ouais, qui se servait plus ou moins de lui, de ce qu'il avait fait, qui en même temps le niait. Ouais, et donc je trouve qu'il y a le même rapport entre ce que fait Aurélia, qui ne garde que la chose la moins intéressante de Commissaire Moulin, si on peut dire que Commissaire Moulin était intéressant, et qui la met en boucle et ne garde que ça dans son imaginaire paramilitaire, et puis voilà, le disco qui ne met en boucle qu'une toute petite chose. Et avec en même temps l'espoir que, comme le disco quand même était un mouvement de musique assez important et qui a en même temps réjoui des quantités de gens qui se mettaient plein de paillettes et qui sortaient comme ça tout pailletés, danser et s'amuser jusqu'au dimanche matin, du samedi soir jusqu'au dimanche matin, qu'il y a peut-être un espoir de trouver quelque chose comme ça, un épiphénomène qui serait quand même bien dans le paramilitaire.
Et est-ce que ce dont tu viens de parler sur James Brown et le disco et les scènes coupées qu'utilise cet artiste vidéaste Aurélia, est-ce que c'est pas un peu ce que tu fais subir à la narration traditionnelle ? Parce que tu opères quelque chose dans la narration.
Alors j'espère que je ne garde pas seulement le moins intéressant pour le mettre en boucle.
Non, bien sûr, mais il y a une idée comme ça.
Ouais, j'ai du mal à rester dans un long fleuve de narration, ça c'est sûr. En même temps, j'ai envie quand même qu'il y ait de la narration parce que c'est assez savoureux, la narration des histoires, on aime ça. En même temps, si ça dure trop longtemps, ça a tendance à m'angoisser qu'on ne puisse plus sortir de la narration et qu'on doive savoir absolument tout ce qui est arrivé au personnage jusqu'au bout. Et je dirais que ce qui m'intéresse, c'est peut-être plutôt de l'ordre de la pensée en mouvement, quoi, ou de la conversation. En fait, simplement, quand on est en conversation avec quelqu'un, à un moment on raconte une anecdote, à un moment on fait une digression, on parle et aussi les histoires sont souvent des exemples pour étayer des thèses qu'on essaie de démontrer. On a aussi parfois une certaine mauvaise foi pour tirer la couverture à soi et ne pas laisser parler son interlocuteur. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont liées à l'exercice de la pensée, en fait, soit seul, soit avec quelqu'un, dans la conversation ou dans la pensée, et qui ne nient pas la narration, en fait, qui peuvent l'inclure très bien. Voilà, mais simplement, la narration n'est pas ce qui mène l'ensemble, c'est simplement une partie qui peut apparaître parce qu'elle est savoureuse et puis parce qu'elle donne l'exemple aussi et qu'elle sert d'exemple. Donc je le verrais plutôt comme ça. Ouais, ces montages sont pas complètement déconstruits du tout pour moi. Hein. C'est simplement un agencement de choses qui viennent les unes après les autres et qui s'éclairent les unes les autres.
Et alors, j'imagine qu'en écrivant l'ensemble des réponses à ces questions bizarres et en construisant l'ensemble de l'ouvrage, il doit te rester de nombreux restes. De nombreux récits qui te restent, des petits bouts épars que tu as écrits, puis finalement qui ne s'imbriquaient pas, qui n'allaient pas. Et j'imagine, du coup, sur ta table de travail, un nombre incalculable presque de restes, de débris qui restent seuls, parce qu'ils n'ont pas pu être mis dans cette plus grande narration, cette méta-narration qui compose Féerie Générale.
Oui, oui, oui. Oui, il y a eu beaucoup de. Oui. J'ai essayé beaucoup de choses. Beaucoup de choses n'ont pas marché, en particulier dans la narration. J'ai pensé que. Enfin, j'avais pas beaucoup pratiqué la narration avant, et là, vraiment, j'avais envie de le faire. Je regarde beaucoup de séries télé aussi. Je me disais, c'est vraiment tentant, il faut quand même que j'arrive à faire ça. Et donc, je me suis lancée dans des méthodes de narration qui ne me convenaient pas, et donc, j'ai beaucoup rejeté de choses. Mais bon, certaines, je me suis servie de certaines pour une pièce de théâtre, ou d'autres pour des fictions, pour la radio, mais aussi, ça, beaucoup d'autres choses ont été jetées, comme ça, sans état d'âme. Rejetées et oubliées complètement.
J'avais juste une dernière question. C'est sur la présence du « nous », du « on » qui est omniprésent. Il y a une forte présence du générique, d'une pensée générique qui soudain est recadrée par le jeu de la narration. Un jeu qui est souvent toi, on imagine en tout cas que c'est toi, qui vient casser ou recadrer en tout cas cette présence générique du « nous » ou du on, qui est assez omniprésente.
Oui, bah j'essaie de généraliser, ça c'est sûr, que ça m'intéresse. Ça m'intéresse de ne pas donner simplement une expérience qui serait la mienne, mais d'essayer de voir quels sont nos imaginaires, en fait. Donc peut-être que c'est ça ce que tu veux dire, que je pars des imaginaires qui sont présents dans notre société, je les transforme. Et je m'inclus tout à fait là-dedans, enfin, je me mets pas du tout à part, je réfléchis sur quelles sont les choses qui nous plaisent, quelles sont les choses, même, enfin, dans les films par exemple, je prends beaucoup d'exemples dans des films, parce que je me dis que c'est là que notre imaginaire est, ce qui est ringard, ce qui est souhaitable, les valeurs différentes, ce qui change d'année en année est présent. Donc je travaille sur cet imaginaire collectif, j'essaie de le transformer, d'en faire ma matière. Voilà, donc ce passage du nous au jeu, je pense que c'est ça.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Pierre.
Merci.
Et nous parlions de féerie générale.